Je nous propose trois textes. Le premier texte, c'est Hébreux chapitre 5, versets 11 à 14. Le deuxième texte, c'est Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 15. Et enfin, nous prendrons 1 Pierre chapitre 2, verset 1. J'ai dit, toute cette semaine, nous serons en train de parler sur la parole de Dieu, socle énergique pour la transformation de l'homme et de la réforme de la société. Mais ce matin, j'aimerais introduire ce grand thème par un sous-thème que j'ai intitulé « Les chrétiens et la maturité spirituelle ». Frères et sœurs, ce matin, avant même que je ne puisse expliciter et expliquer ces différents textes que nous avons lus, j'aimerais nous faire comprendre cette réalité. J'aimerais commencer par là et nous dire ce que la maturité chrétienne ne veut pas dire, ce que la maturité spirituelle ne veut pas dire. Premièrement, la maturité spirituelle n'est pas le nombre d'années dans une église. Ce n'est pas parce que tu as fait 10 ans, 15 ans, 20 ans dans une église que tu es mature. Souvent quand on demande à quelqu'un, est-ce que tu es mature, il te dira, bon, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, d'ailleurs cette église c'est nous qui l'avons. Frères et sœurs, tu peux commencer cette église à être bébé. Deuxièmement, elle n'est pas question d'âge ni de cheveux blancs. Là je m'excuse à tous ceux qui ont les cheveux blancs ou la calvitie comme moi. Ce n'est pas parce que vous avez la calvitie ou les cheveux blancs que vous êtes mature spirituellement. Quelqu'un peut avoir 80 ans, mais bébé spirituel. Tout comme quelqu'un peut avoir 15 ans, 20 ans, et être mature spirituellement. Je me suis toujours posé cette question. Pourquoi vous jugez les gens selon leur âge? Permettez que j'en parle. Dans certaines communautés, pour consacrer un pasteur, on attend d'abord qu'il ait 40 ans, 45 ans. Alors on se dit qu'il est mature. C'est vrai, il est mature en âge, mais est-ce qu'il est mature spirituellement? Et nos communautés souffrent aujourd'hui, parce que lorsqu'on te consacre pasteur à 50 ans, et que l'espérance de vie au Congo est à 45 ans, c'est qu'on commence à préparer ton cercueil. Et tu ne feras rien en tant que serviteur de Dieu. La troisième des choses, elle n'a rien à faire avec ce que nous faisons pour Dieu. Et là, je vais insister. Quelqu'un peut chanter pour Dieu et être bébé spirituel. Quelqu'un peut prêcher la parole de Dieu et être bébé spirituel. Quelqu'un peut être responsable d'un département dans l'église et être bébé. Ce n'est pas parce que tu prêches, ce n'est pas parce que tu chantes, ce n'est pas parce que tu es intercesseur que tu es mûr ou mature spirituellement. Dans Hébreux chapitre 5, versets 11 à 14, les passages que nous avons lus au début. D'abord, l'écrivain de cette épître demeure inconnu. On ne sait pas si c'est qui. Certains pensent que c'est Paul, mais rien ne le confirme. Lorsqu'il parle sur la maturité spirituelle, il nous montre 3 à 4 signes de l'immaturité spirituelle. 4 choses qui montrent qu'on est immature. Faire des choses, si vous voulez connaître un bébé spirituel, il est lent à comprendre. Dis à ton voisin, il est lent à comprendre. Il a des lenteurs dans sa compréhension. Il dit ceci au verset 11. Nous avons beaucoup à vous dire là-dessus. Et même des choses difficiles à expliquer. Pourquoi? Parce que vous avez un problème. Vous êtes lent à comprendre. C'est ça le premier signe d'un bébé spirituel. Un bébé spirituel ne comprend pas les choses à la seconde. Il lui faut d'abord 10 ans pour les comprendre. Il faut beaucoup d'explications. Et aujourd'hui dans l'église du Congo, nous avons beaucoup de bébés spirituels. Un jour on m'invite quelque part, on me dit, nous avons besoin de construire les temples. Est-ce que tu peux venir animer un séminaire, une convention pour que les gens donnent les offrandes? Je leur ai dit, je ne suis pas là pour dire aux gens de donner. Je suis là pour amener les cœurs aux gens. Mais le problème c'est quoi? Vous ne donnez pas au Seigneur parce que vous êtes des bébés spirituels. Il n'y a pas des amen, hein? Quand on est bébé spirituel, il faut d'abord un séminaire. Non, nous aurons convention, nous aurons opération André. Et on fait d'abord toute une série d'enseignements. Et les pasteurs se poumonnent. Donnez au Seigneur et vous serez bénis. Faites ceci, frères et sœurs, vous êtes bébés. Hein? Un bébé spirituel, il faut beaucoup de séminaires pour qu'il puisse mener et vivre dans la sainteté. Il faut qu'il y ait beaucoup de séminaires, lui montrer les versets et les passages bibliques pour qu'il comprenne que je dois craindre le Seigneur. Mais quelqu'un qui est mature spirituellement, il n'a pas besoin d'un séminaire, il agit. Le deuxième signe, c'est la non-prise de conscience de ce qu'on est réellement. Un bébé ne connaît pas réellement qui il est. Il ne connaît pas ses potentiels. Il ne connaît pas les richesses qui sont en lui. Au verset 12, il dit ceci. Vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres, mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment, les oracles de Dieu. Vous en êtes venus en avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. Il dit ceci. Ce sont des gens qui devaient être des maîtres, des responsables. Mais ils ont un problème, ils ne connaissent pas qu'ils sont maîtres, qu'ils se comportent encore comme des bébés. L'un des caractéristiques des bébés, c'est qu'ils ont besoin de l'attention. Dis à ton voisin, l'attention. Ils veulent qu'on s'occupe d'eux. Permettez que je le dise. Un enfant, même quand il fait ses besoins, il ne peut pas lui-même s'échanger. Il faut qu'il y ait toujours quelqu'un pour le faire. C'est indépendant. C'est quelqu'un qui dépend des autres. Un bébé spirituel dans l'église, ce sont ces fidèles qui, quand il faut venir à l'église, il faut d'abord qu'on les appelle samedi. Le pasteur a déjà toute une liste et il commence à appeler. Demain, il y a qui? Est-ce que vous allez venir? C'est un bébé spirituel. Il faut d'abord un suivi. Et aujourd'hui, dans nos églises, nous avons beaucoup de bébés spirituels. Les bébés spirituels sont là pour demander au pasteur, qu'est-ce que Dieu a dit sur ma vie? Ils veulent toujours que Dieu dise un mot. Pasteur, est-ce que Dieu ne t'a pas donné une révélation? Et ils vivent des pseudo-prophètes. Ils dépendent des prophètes. Ils ont déjà un prophète, un homme qui vient leur dire, bon, papa, je vis que tu dois voyager. Mais eux-mêmes n'écoutent pas Dieu. J'aimerais dire à l'église, tout enfant de Dieu doit écouter Dieu. La Bible dit, mes brebis connaissent ma voix. C'est-à-dire, si tu es enfant de Dieu, tu dois écouter Dieu. Tu n'as pas besoin d'un prophète. Tu es prophète pour ta propre vie. Parce que tu écoutes Dieu. Quand tu es bébé spirituel, tu vas dépendre des prophéties des gens. Mais tu as besoin de Dieu. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise ceci. La parole de Dieu est la prophétie par excellence. Le véritable esclave. Esclave des gens. Que les gens qui perdent tout leur bien chez... Je ne refuse pas, bénissez l'homme de Dieu, c'est bon. Mais c'est anormal quand vous devenez esclave d'un homme. Vous devez toujours contribuer, vous devez toujours faire ceci. Homme de Dieu, ne me lapidez pas, permettez que je parle de la part de Dieu. Ce dimanche, je vais nous pousser à quitter le bébé spirituel, à devenir un homme mature. Paul dit ceci dans Galates 4, versets 1 à 2, j'aime ça. Il dit, or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Et pourtant, il est maître. Et écoutez le verset 2, il dit, il est sous des titulaires et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Les bébés spirituels dépendent. Ils ne prient pas. Ils veulent qu'on prie pour eux. Tu veux aller à l'église et dire, bon, pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi? Tu es bébé spirituel. Mets-toi à genoux, prie. Le problème, vous êtes bébé spirituel. Frères et sœurs, tu n'as pas besoin d'un intercesseur. Toi-même, tu peux intercéder pour ta vie. Et j'aimerais dire à l'église, le meilleur intercesseur pour ta vie, c'est toi-même. Parce que c'est toi qui connais tes problèmes. Quand tu viens me dire, frère, soutiens-moi, je vais te soutenir, mais je ne vivrai pas ce que tu vis. Il est important que nous quittions cet état d'être des bébés et que nous devenions des personnes matures. Troisième signe. Les bébés spirituels sont caractérisés par l'inexpérience. Ils n'ont aucune expérience. Aucune expérience. Au verset 13, il dit ceci. Or quiconque, je suis dans Hébreux 5, 13. Or quiconque en est au lait n'a pas de l'expérience de la parole de justice. Car il est un enfant. Les bébés spirituels, ils n'ont aucune expérience avec Dieu. Quand je parle de Dieu, ils se demandent qui est Dieu. Je voudrais vous montrer une vérité dans la Bible. Est-ce que vous savez que Dieu s'est révélé à son peuple et à chaque saison, il avait un nom? Si vous demandez à Abraham qui est Dieu, il vous dira Jéhovah Jireh. Parce qu'il a expérimenté, il a vu comment il a pourvu à qui? À ses besoins. Mais si vous demandez à Moïse qui est Jéhovah Jireh, il ne connaît pas, il te dira l'Éternel, je suis, m'a envoyé. Chacun avait la révélation de son Dieu. Il connaît Dieu d'une manière particulière, pas un Dieu d'histoire, pas un Dieu qu'on lui a approché, mais un Dieu qu'il a vécu, un Dieu qu'il a expérimenté. Et c'est ça le problème avec l'Église aujourd'hui. Nous avons un Dieu des généralités, mais nous n'avons pas un Dieu que nous expérimentons. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas même proclamer la parole de Dieu. Écoutez, on dit à Pierre, arrêtez de parler de Jésus. Ne parlez plus de cet homme. Quelle est la réponse de Pierre? Il dit, c'est ce que nous avons entendu, que nous avons vu, expérimenté, touché. Comment ne pas parler de cela? Le problème avec le christianisme aujourd'hui, c'est que les hommes et les femmes n'expérimentent pas Dieu. Ils ont un Dieu d'histoire et non un Dieu de réalité. Oh non, nous serons la tête et non la queue, mais tu es la queue. Oh non, l'Éternel guérit, mais tu es malade. Le problème, tu n'as pas l'expérience avec Dieu. Il est temps que nous quittions l'histoire et que nous puissions expérimenter Dieu. Il est temps que tu dises des choses que tu as vécues, des choses que tu as expérimentées. Frères et sœurs, il est temps. Un bébé spirituel, il a un Dieu d'histoire. Un Dieu qu'on lui a appris à la théologie. Non, c'est pas ça Dieu. Dieu, c'est une expérience personnelle. Et nous avons des sérieux problèmes dans nos églises. Parce que nous n'avons pas cette expérience personnel. Nous avons un Dieu que les Blancs nous ont proché. Mais es-tu en expérience personnelle avec ce Dieu-là? Tu es bébé spirituel. Troisième ou quatrième signe, voulais-je dire. Les bébés spirituels sont caractérisés par le manque de discernement. Au verset 14, il dit ceci, « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, c'est-à-dire les hommes matures. Pour ces dons, le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Quand quelqu'un est bébé, il ne sait pas faire les choix. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire une vérité. L'un des domaines où la plus grande bénédiction que Dieu a donnée à l'homme, c'est le choix. Regardez, lorsqu'il crée le ciel et la terre, qu'est-ce que la Bible dit? Il plaça l'homme dans le jardin d'Éden. Et la première ou le premier exercice que Dieu veut faire à l'homme, c'est de faire quoi? Choisir. Il lui dit, tu mangeras de tous les arbres, mais attention, ne mange pas celui du millier et pas n'importe quel, celui de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'au millier, il y avait deux arbres, celui de la vie et celui des connaissances du bien. Et il pouvait manger celui de la vie, mais pas celui des connaissances du bien et du mal. Dieu place déjà, dès la création, l'homme devant un choix. Le choix, c'est le seul domaine où Dieu ne force personne. C'est le seul domaine où Dieu ne force personne. Et c'est dangereux quand des pasteurs, des hommes de Dieu, où l'église commence à forcer les gens dans leur choix. Frères et sœurs, même Dieu ne force personne. Il dit ceci dans Deutéronome 30. Il dit, j'ai mis devant toi deux chemins. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. En matière de choix, Dieu n'est qu'un conseiller. Il donne un conseil. Choisis la vie et tu ne mourras. Je vais vous dire une vérité. Toute la vie de l'homme tourne autour du choix. Est-ce que vous savez même la vie éternelle est une question de choix? Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque prend une décision, il prend le choix de décider. Moi, je vais suivre Jésus, qu'il est la vie. Voilà pourquoi quand ceux qui vont aller en enfer iront, ils iront tout en sachant, la Bible dit, en train de dire, Jésus, tu es Seigneur, parce que moi-même j'ai choisi d'aller en enfer. Aujourd'hui, tu dois décider. Quand on est bébé spirituel, on ne sait pas décider. On se dit, mais ces histoires-là de baptême, non, non, ça va attendre. Non, Jésus, c'est quand je deviendrai grand. Tu es un bébé. Retenez rapidement ces 10 vérités et puis nous allons prier. C'est des vérités sur la maturité spirituelle. La première vérité, c'est que naître est une bonne chose. La naissance, c'est une bonne chose. Mais il n'est pas utile sans la croissance. La naissance, c'est une bonne chose. Mais il n'est pas utile sans la croissance. C'est un malheur pour une famille d'avoir un enfant qui demeure bébé éternellement. C'est une malédiction. Ce qui fait la beauté de la vie, c'est quand un enfant naît et il grandit. Deuxième vérité, le souhait et le rêve même de Dieu, c'est que chacun de nous puisse grandir. Dis à ton voisin, le rêve de Dieu, c'est de te voir grandir. Dans 1 Pierre 2, verset 2, l'apôtre Pierre affirme ce que j'ai. Il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés. Et comme vous êtes des enfants nouveau-nés, prenez quoi? Les laits spirituels et pires. Mais dans quel but? Pour que vous restiez bébé, mais pour que vous fassiez quoi? Puissiez grandir.
que vous puissiez atteindre la maturité. Le rêve de Dieu, c'est de nous voir grandir.
Les soucis de Dieu, c'est de nous voir grandir. Les soucis de Dieu pour cette église, c'est de voir cette église grandir, quitter un niveau pour un autre niveau.
Qu'est-ce donc la maturité spirituelle? Troisième vérité, c'est que la véritable maturité spirituelle, c'est quand Christ arrive à se former.
Frères et sœurs, ce n'est que lorsque Christ arrive à se former en nous que l'on atteint ce que j'appelle la maturité. Tu peux prier, tu peux chanter, tu peux prêcher, mais si nous ne voyons pas Christ dans ta vie, tu es un bébé spirituel. Et là, je veux insister. Parce que c'est ça le problème. Les gens pensent qu'être spirituel, c'est être pasteur. Être mature, c'est être évangéliste. Non, c'est faux! La véritable maturité spirituelle, c'est lorsque quelqu'un vous regarde et qu'il voit Christ. Et qu'il dit, cet homme ressemble à quelqu'un qui s'appelle, hein? L'apôtre Paul, il montre sa douleur. Ce qui lui fait mal dans Galates 4, verset 19. Il souffre. Et il dit ceci, mes enfants, là il parle aux gens des Galates, pour qui j'éprouve de nouveau des douleurs de l'enfantement. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Jusqu'à ce que lorsque je vous regarderai, que je voie Christ. Et c'est là le problème de l'église d'aujourd'hui. Nous avons beaucoup de gens qui se disent chrétiens, mais en réalité ce sont des chrétiens et non, on ne peut jamais voir Christ dans leur vie. Ils sont juste des chrétiens parce qu'ils viennent à la CBK. Ils sont juste des chrétiens parce que chaque dimanche ils vont à la source. Ils sont juste des chrétiens parce qu'ils sont attachés à une église. Frères et sœurs, ce n'est pas ça qui fait de toi un chrétien. Ce qui fait de toi un chrétien, c'est lorsque tu arrives à manifester la vie de Christ.
Et là, je veux beaucoup prêcher.
La Bible dit ceci, Paul dit. Il dit, nous sommes les parfums de Dieu. Lorsque nous passons, nous devons exhaler les parfums de Dieu.
Dans toute vie, montre Christ. La vie ne nous appartient plus.
Vous voulez connaître des bébés spirituels? Ce sont ces gens qui disent, ne touchez pas à ma vie. Ça, c'est mon domaine. Tu es encore bébé spirituel.
Un véritable, un mature spirituel, c'est cet homme dont la vie ne lui appartient plus. Ça devient la vie de qui? De Christ.
J'aime dans Galates 2, verset 20. La Bible nous montre d'un homme qui était mature spirituellement. Il dit ceci, j'ai été crucifié avec Christ. Il va plus loin, il dit, et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Toi, qui vis en toi? La colère. Qui vit en toi? La jalousie. Qui vit en toi? La haine. Qui vit en toi? Les mensonges. Qui vit en toi? Hein, ce petit garçon-là qui t'a dit, je t'aime. Sans toi, je ne peux pas vivre. Mais continue à vivre sans toi.
Frères et sœurs, qui vit en toi?
Où sont ces hommes et femmes lorsqu'ils passent? Nous sommes en mesure de voir Christ. Où sont ces hommes de Dieu lorsqu'ils nous prêchent? Nous sommes en mesure de voir Christ. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons avec les prédicateurs? Permets que j'en parle. Des hommes qui viennent nous présenter leurs vestes, leurs voyages. Frères et sœurs, l'église n'a pas besoin de ces choses. L'église a besoin de Jésus-Christ.
Si je vous dis j'ai été en Chine, qu'est-ce que ça vous avantage?
Oh non, frères et sœurs, vous serez bénis. Vous allez voyager. C'est faux! La bénédiction, ce n'est pas voyager. Même les païens voyagent sans cette bénédiction-là dont tu parles. La vraie bénédiction, c'est d'avoir Jésus-Christ dans son cœur. Posséder Jésus-Christ, vivre avec Jésus-Christ. Ce n'est pas avoir les maisons. N'importe qui peut avoir les maisons.
Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Regardez, on arrive à cet état si on accepte de passer par la crucifixion. Dis à toi, c'est la crucifixion. Là, ce n'est pas facile. Vous savez, on nous a prêché un mauvais évangile. On en venait à Jésus-Christ, tout va changer. Tout va aller. C'est faux, c'est un faux évangile. Frères et sœurs, je ne viens pas vous dire que si vous venez à Christ, vous aurez tous ces dons pour rêver. Ça, ce sont des choses qui vous attachent aux choses terrestres. Jésus a dit, si vous m'aimez, le monde vous détestera.
Ouais. Là, il n'y a plus d'amen. Amen. Je vais vous le montrer dans la Bible. Pierre dit à Jésus, Pierre, il dit Jésus, arrêtons d'abord. Parlons de choses sérieuse. J'ai abandonné ma maison. J'ai abandonné mes enfants. J'ai tout abandonné pour te suivre. Jésus, dis-moi qu'est-ce que je vais avoir. Quelle est la réponse de Jésus? Vous aurez toutes ces choses
Mais Jésus ne s'est pas arrêté là-bas, au sein type. Mais il ajoute quelque chose que j'aime. Vous les aurez avec un bonus.
Alors, Église, je vais vous pousser aujourd'hui à changer votre façon de prier. Lorsque tu dis, Seigneur, donne-moi le mariage, dis, Seigneur, n'oublie pas le bonus.
La persécution.
C'est ça ce que dit la Bible. Dans Psaume 34, verset 20, la Bible dit, les malheurs atteignent souvent. Si tu es juste, les malheurs atteindra. Alors si tu viens me donner une prophétie, oh non, tu vas souffrir. C'est normal. C'est pas une prophétie. Les malheurs atteignent souvent. Hein? Mais ce que j'aime, l'Éternel l'en délivre. Je ne vous garantis pas de ne pas souffrir. Si ça ne marchait pas, ça va encore s'empirer davantage. Mais il y a une solution. L'Éternel est... Frères et sœurs, le plus important, ce n'est pas ce que vous connaissez. Le plus important, c'est la présence de Dieu dans vos vies. La Bible dit, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun. Hein? Pourquoi? Parce que tu es avec moi.
Acte 11, 26. La Bible dit, il y a une catégorie des hommes qu'on appelait les hommes d'Antioche. Après avoir enseigné et prêché, ils passent. Regardez qui les appelle chrétiens. Ce sont les païens. Ils regardent, ils disent, ces gens ont un style de vie. Ils ont un mode de vie qui ressemble à quelqu'un qui a existé, qui s'appelle Christ. Donc ils sont... Le plus souvent nous pressons, mais la meilleure prédication c'est ta vie.
Je croyais que tu vas dire amen.
J'ai dit la bonne et la meilleure prédication, c'est ta vie. Ce n'est pas de dire Jésus vous aime. Toi donne d'abord l'amour et les gens comprendront que Jésus les aime.
Dans Éphésiens 4, verset 13 et le verset 15, l'apôtre Paul est en train de parler de la maturité. Et il fait mention de trois mots. Le premier mot, il dit les hommes faits, c'est-à-dire des chrétiens adultes. Le deuxième mot, la stature parfaite de Christ. Arriver à manifester la vie de Christ, c'est-à-dire la plénitude de Christ. Et enfin, ces hommes qui croissent à tous égards. C'est ça la maturité spirituelle. Quatrième vérité, c'est que la maturité n'est jamais un phénomène, mais c'est un processus. Dis à ton voisin, c'est un processus. Dis-lui encore, c'est un processus. L'on ne devient pas mature par un big bang, c'est-à-dire tu te réveilles et puis tout d'un coup, waouh.
Vous savez, aujourd'hui, nous avons la génération de Kirikou. Vous n'avez jamais suivi Kirikou? Ah, c'est un dessin animé. Ça, c'est un problème des parents qui ont des enfants, mais qui ne suivent pas des dessins animés avec leurs enfants. Ils se demandent, Kirikou, c'est quel personnage de la Bible? Je ne suis pas dans la Bible, je vous parle d'un dessin animé. Kirikou, c'est le seul enfant qui est né, et directement, il a commencé. Et puis, d'un coup, il devient un homme et il se marie. Dis à ton voisin, ne sois pas Kirikou. Mais la maturité, c'est un processus.
C'est pourquoi, si vous voulez atteindre la maturité, il faut accepter le soutien des aînés. Dis à ton voisin, le soutien des aînés.
Tu ne deviendras jamais mature sans l'apport et le soutien des aînés.
Permettez que je m'adresse aux aînés, à ces hommes que Dieu a établis, qui nous ont avancés dans la foi. N'attendez pas que tout le monde devienne comme vous, aînés. Ceux qui sont grands aujourd'hui ne sont jamais nés grands. Ils sont devenus... J'avais, il n'y a pas longtemps, beaucoup de cheveux et je faisais des coiffes comme ça. Et puis tout d'un coup, je vois qu'il y a comme une érosion. C'est comme si Ewabora a atterri sur ma tête et il a emporté mes cheveux. Mais il y a quelques années, 10 ans, si tu vois mes photos, tu vas te dire, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas? Depuis un temps, je commence à laisser pousser les cheveux et je vois que je n'ai plus la forme sur la tête. Pourquoi? Parce qu'on grandit. C'est pourquoi je vais demander aux aînés, donne-nous du temps. Dis à un aîné à côté de toi, dis-lui, donne-moi du temps.
Que Dieu nous donne des aînés patients, des aînés qui supportent nos caprices, nos faiblesses, des aînés qui comprennent que cet enfant, c'est encore un enfant, mais demain il deviendra un homme. J'aime cette histoire dans Luc 13, versets 6 à 9. La Bible nous parle d'un maître qui avait un figuier. Il vient, il raconte, le figuier n'a pas de fruits. Il dit au vigneron, prends les couteaux, coupe-les, parce qu'il ne donne pas de fruits. Mais j'aime le vigneron. Le vigneron qui était un aîné, il dit, donne-lui seulement une année. Laisse-lui encore du temps, il deviendra... Un jeune homme est venu me voir, il dit, j'aimerais prêcher comme toi. Je l'ai regardé, je lui ai dit, tu sais pour prêcher comme ça? Il m'a pris beaucoup d'années et il y a eu quelqu'un qui m'a supporté. Il y a eu quelqu'un qui a regardé. Je me rappelle ma première prédication. Je suis parti donner des versets qui n'existaient pas dans la Bible. Je me rappelle, je lis cette Bible ici de Jérusalem. Maccabée, chapitre 5, verset 5. Et les gens regardaient la leur Bible. Ça n'y est pas.
C'était juste une question de temps.
J'aimerais dire aux anciens, n'ayez pas peur de donner la relève à la nouvelle génération. Laissez-les juste le temps. Aujourd'hui, ne donne pas de fruits. Vous ne voyez rien. Donnez-les juste. Hein?
Aujourd'hui, nous avons un problème avec les vieilles générations. Les vieilles veulent que les jeunes soient comme eux. Et les jeunes veulent que les vieux soient comme eux. Mais le problème, c'est quoi?
Laissez aux jeunes le temps. Ils vont comprendre avec l'âge qu'il y a un moment où tu arrives, que tu cours et tu sues. La Bible me dit dans Actes 3, verset 1.
J'aime ces passages. C'était à la 9e heure.
Lorsque Pierre et Jean sont montés ensemble au temple. Regardez bien.
Il y a les mots ensemble. À la 9e heure, la Bible dit Pierre et Jean montaient
ensemble. Regardez ces deux personnages. Pierre était plus âgé. Jean était moins.
D'ailleurs, la Bible prouve. Lorsque Jésus est ressuscité, on vient dire aux disciples. Jésus et qui sont partis voir cela.
C'est Pierre et Jean. Ce qui vous montre que Pierre était avancé à l'âge, la Bible dit, il marchait lentement. Et Jean, comme il était fort, il a couru.
Permettez, Église, que je le dise. Ne me frappez pas. Pasteur, une église composée que des jeunes gens, c'est une église en danger. Il n'y a pas d'amen.
Une église où il n'y a que des jeunes gens, c'est une église hein, en danger. Pourquoi? Parce que les jeunes gens ont les sens chauds. Ils ont la foi. Ils peuvent vous construire un temple sans l'avoir, avoir le terrain. Ça, c'est les jeunes.
Faisons ceci, campagne. Hey, mais vous avez combien?
Rien.
Nous avons la foi, pasteur. On va le faire. Ça, c'est ça, hein? Les jeunes. Regardez, un jour, Jésus veut entrer à Samarie. Et Samarie dit, nous ne t'accueillons pas. Rentre sur toi.
La Bible dit, les jeunes gens, Jacques et Jean, vont dire à Jésus, donne-nous seulement l'autorisation qu'on invoque les fées, que ça consigne tout le monde.
Jésus regarde et dit, c'est ça, les jeunes. Si ils consumaient ces gens, ils vont prêcher encore qui?
Voilà pourquoi si vous voyez un prédicateur jeune venir ici, il va invoquer les fées. Les fées, ouh! C'est normal, comprenez, c'est un jeune.
Je sens un papa qui dit, insiste là.
Une église composée que de vieilles personnes, elle est morte.
Normalement, ils portent des lunettes. Permettez, mais viens, ne me frappez pas. Et quand ils te regardent, tu te demandes, est-ce que ce sont les lunettes qui me regardent ou quoi? Parce que les lunettes sont là, les yeux sont au-dessus.
On est en construction. Ils ont tellement l'expérience et ils ont connu beaucoup de choses. Ils vont vous demander, vous avez combien dans la tête? Et ils ne connaissent rien de la foi. Réalité.
Mais ce matin, je viens parler aux jeunes gens. Et aux vieilles personnes, marchez
ensemble.
Et quand vous allez marcher ensemble, il y aura l'équilibre. Regardez, lorsque Pierre et Jean marchent avec Jean, qu'est-ce qui se passe?
Un miracle se passe.
Amen.
Le miracle de cette église n'arrivera que lorsque les vieilles personnes vont accepter de marcher avec les jeunes.
S'il y a un vieux papa à côté de toi, dis-lui, marchons ensemble. Papa, s'il y a un vieux à côté de toi, dis-lui, marchons ensemble.
Cinquième vérité, la maturité spirituelle a besoin de trois acteurs principaux. Trois acteurs principaux. Si vous voulez atteindre la maturité spirituelle,
il faut que ces trois acteurs entrent en jeu.
Le premier acteur, c'est ce que j'appelle les leaders et les investissement. Les leaders et leur investissement. Sans les leaders, sans leadership, il n'y a pas de maturité. La qualité des fidèles, là je vais parler aux pasteurs, aux hommes de Dieu qui êtes là.
La croissance d'une église dépend de la qualité des leaders. Et encore plus loin, dépend de la qualité du message qu'ils donnent.
Je suis dans Éphésiens 4, verset 11. Regardez ce que la Bible dit. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Mais dans quel but? Le verset 12 le dit. Pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire pour qu'ils grandissent. Et la Bible va plus loin et dit. Pour l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Frères et sœurs, cher pasteur, cher éminent homme de Dieu, vous voulez avoir des chrétiens matures, grandissez d'abord, donnez la nourriture qu'il faut. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de bébés spirituels parce que les hommes de Dieu ne s'investissent pas dans la nouvelle génération.
Permettez que je parle de la part de Dieu. Vous connaissez tous David Oyedepo. Combien les connaissent? J'ai parié, ce sont David Oyedepo. C'est le pasteur qui a la plus grande église au monde.
En termes de capacité. Mais la plus grande église en termes de membres, c'est David Lungisho. Mais la plus grande église au monde en termes de capacité, c'est David Oyedepo. Il a écrit un ouvrage intitulé « La direction divine ». Et là, il parle, il dit, lorsqu'il a commencé son ministère, Dieu lui avait dit, tu auras la plus grande église du monde. Mais il a fait 10 ans en train de jeûner et prier, Seigneur, donne-moi cette grande église. Chaque jour, il y avait combien de personnes, vous savez? 80. Pendant 10 ans. Et il dit, Seigneur, tu m'as menti. Tu m'as parlé d'une grande église. Comment? Il n'y a que 80 personnes. Et le plus souvent, c'était les chrétiens problématiques. Le dimanche, il vient de 30, l'autre dimanche, 50, et puis 12. Et puis finalement, il s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il va en retraite et il demande, Seigneur, je veux voir cette église. Le Seigneur lui a donné Psaume 23. Quel est ce passage? Qu'est-ce que ça dit? L'Éternel, il dit, Seigneur, qu'est-ce que ça a à faire avec la croissance de l'église? Moi, je te demande une grande église, toi, tu me donnes Psaume 23. Dieu lui dit, c'est moi le berger. Et c'est ça le problème. Regardez dans Éphésiens 4, 11. Il n'a pas dit vous êtes des pasteurs. Vous êtes comme des pasteurs. Vous êtes comme des évangélistes. C'est-à-dire que le véritable pasteur existe. Le véritable évangéliste existe. Toi, tu n'es que celui qui vient les défaire ce qu'il a commencé. Ok, je peux avancer. Et puis il lui dit, c'est moi, le berger. Il lui donne le verset, il lui dit, tu me conduis vers le pâturage. Et lui dit, quel est le pâturage que tu prépares pour mon père? Homme de Dieu, votre mission n'est pas d'avoir l'argent. Ce n'est pas la gestion de l'argent. Votre mission, c'est de préparer le verre pâturage. Cherchez qu'est-ce que le peuple de Dieu mangera. Et le bon berger verra à Goma Ouest, il y a le verre pâturage. Il amènera à... Je vous donne la clé du réveil. C'est tout.
Que des pasteurs qui se battent pour avoir des titres, pour avoir des fonctions, ce n'est pas ça l'important. Cherchez les messages pour le peuple de Dieu. Où sont les hommes de Dieu qui vont chercher et demander à Dieu qu'est-ce que je veux dire à ton peuple? Ou vous voulez dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, ce qu'ils ont l'habitude d'entendre? Non, ce n'est pas ça. Venez dire au peuple ce que Dieu vous a dit et Dieu amènera. Deuxième facteur de la maturité, c'est nous-mêmes. Dis à toi. Même si vous avez le plus bon pasteur qui vous prêche bien, si toi-même tu ne t'impliques pas, il n'y aura pas de maturité. J'aimerais souligner et dire ceci, la maturité ne nous arrive jamais malgré nous et sans nous. Il faut notre apport. Même si votre pasteur prêchait bien, comment? Si tu ne te donnes pas à la vie des prières, si tu ne te donnes pas à la méditation de la parole de Dieu, tu ne grandiras jamais. Troisième facteur de la croissance, c'est le Saint-Esprit. Dis à toi, le Saint-Esprit. Dis-lui encore le Saint-Esprit. La croissance n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre de Dieu. 1 Corinthiens 3, versets 6 à 7. L'apôtre Paul affirme, il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu fait croître. Le verset 7. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui... Mais c'est celui qui fait croître. Sixième vérité. La maturité, lorsqu'elle est présente, elle n'est jamais cachée. Elle est visible. Lorsque quelqu'un a grandi spirituellement, on sait les sentir. Et les premières personnes à les sentir, c'est ton entourage. Les personnes qui sont autour de toi. Et les deuxièmes personnes, c'est toi-même. Toi-même, tu seras sûr et certain que j'ai grandi. Septième vérité, la maturité, lorsqu'elle est présente dans la vie d'un chrétien, elle accomplit 4 choses. Lorsque la maturité est présente dans la vie d'un chrétien, elle accomplit 4 choses. La première des choses, elle fait la joie de Dieu. Dieu est content lorsqu'il nous voit grandir. La deuxième des choses, elle donne la force à notre témoignage. Lorsque tu passes, les gens, ils ont la foi de Dieu. Pourquoi? À cause de la maturité. La troisième des choses, le monde est interpellé. Lorsqu'on voit quelqu'un qui a grandi, qui est mature, le monde est interpellé. La quatrième des choses, et ça c'est très important, elles servent d'exemple pour les jeunes gens. Des modèles. Huitième vérité, avant que nous ne terminions. Lorsque les jeunes gens dans la foi ne trouvent pas la maturité dans le chef des leaders, des choses se passent. Lorsque chez les leaders, il n'y a pas de maturité, il y a des choses. La première des choses, il n'y a pas une source d'inspiration. Il n'y a pas de modèle. La deuxième des choses, les jeunes ne sont pas défiés. Il est temps que Dieu nous donne des leaders matures. Des gens qui vont faire à ce que nous puissions être inspirés et que nous puissions le prendre comme modèle et être défiés.
Frères et sœurs, il y a de cela 2 ans, Dieu m'a fait la grâce d'aller prêcher avec le pasteur Roland au Maniema. Quand on m'a dit que je veux prêcher avec lui, je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais dire? Le premier jour, il a cité tout ce que je devais dire dans 3 jours. J'ai dit, mais ces gens, ils ont quel genre de Bible? Ça m'a poussé encore à aller chercher le Seigneur, à gêner du Seigneur, je vais avoir un message. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est martyr, qui te défie et qui te pousse à faire encore. 9e vérité et avant-dernière, c'est que la vraie maturité se manifeste de 2 manières. La première manière, c'est par les actions. Quelqu'un qui est mature, lorsqu'il pose des actions, vous pouvez comprendre qu'il est mature. Et la deuxième manière, et c'est là la plus importante, par les réactions. Oh non, je suis chrétien, je suis mature. Comment tu réagis? Demande à ton voisin comment tu réagis. Les réactions de quelqu'un montrent qu'il est mature spirituellement ou pas. Matthieu 5, verset 38 à 39. La Bible nous donne un exemple difficile. Jésus dit ceci. Si on vous frappe à la joue droite, donnez la joue gauche. Et c'est ça être mature. Toi, c'est là quelqu'un te dit un mot. Je quitte la chorale. Oui, tu es bébé spirituel. Va t'appeler. Tu es dans les conseils des anciens. On parle contre toi. Non, je vais quitter cette église. Tu es bébé. Dans Matthieu 5, 43, il dit, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux-là qui vous... C'est ça la maturité. Quand vous arrivez à ce niveau, à ce stade où vous réagissez différemment, alors vous devenez une personne mature. La 10e et la dernière vérité, puis nous allons prier.
Toute croissance s'accompagne de 2 mouvements. Le premier mouvement, ce sont les choses qui disparaissent. Le deuxième mouvement, ce sont des choses nouvelles qui prennent place. Je suis dans 1 Corinthiens 13, verset 11. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et j'aimerais ensemble que nous puissions les lire ces passages. 1 Corinthiens 13, verset 11. Est-ce qu'on peut les lire ensemble? Regardez maintenant les processus. Lorsque je suis devenu homme, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a des choses qui disparaissent. Frères et sœurs, vous dites que vous êtes mature spirituellement. Mais qu'est-ce qui a disparu dans votre vie? Qu'est-ce qui a changé? Il n'y a pas de maturité s'il n'y a pas des choses qui disparaissent. Non, moi je suis mature, mais je suis encore colérique. Je suis mature, mais tu es encore impudique. Tu n'as pas encore atteint la maturité. La maturité, c'est lorsque des choses disparaissent et il y a des choses qui prennent place. Et c'est ce que des Corinthiens 5, 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire il a grandi, il s'est enraciné, enfoncé à Christ, regardez ce qui se passe. Toutes choses deviennent nouvelles. Les anciennes choses disparaissent et il est une nouvelle créature. Le problème avec l'église aujourd'hui, c'est que nous avons des chrétiens rabbis. Rabbi ne change pas, il est le même aujourd'hui et éternellement. Depuis qu'il est venu à l'église, il a juste changé. Vous savez, il y a des joueurs, ils changent de varices, mais c'est la même équipe. Avant, il était catholique, il devient baptiste. Mais qu'est-ce qui a changé? Rien du tout. Frères et sœurs, il est important que certaines choses disparaissent. Et Dieu m'a dit que lorsque je parlerai de ces choses, il y a des gens qui savent des choses qui doivent disparaître. Et des fois, ils ont du mal à prendre une décision. Ils disent, je vais attendre encore une année. Le Seigneur m'a dit, n'attends pas une année parce que tu n'as pas une année avec toi. Je parle à quelqu'un ce matin, tu dois abandonner ces choses. Tu dois laisser ces choses. Il faut qu'une nouvelle vie commence en toi. C'est anormal d'être chrétien. Et tu es un chrétien encore de vie bizarre. Chrétien, alléluia, hosanna, alléluia, hosanna. Quand il faut donner les offrandes, tu viens, tu donnes. Mais comment tu as eu cet argent? Je vais poser la question à ceux qui ont des maisons. Comment avez-vous eu cette maison? Je me suis toujours posé la question. Le miracle au Congo, tout Congolais doit comprendre le miracle. Un enseignant de l'école primaire, 100 000 francs congolais, mais il parvient à vous construire une maison de 60 000 dollars. Quel miracle! Frères et sœurs, et puis vous venez au nom, je vais donner l'offrande pour sacrifier. Non! Tu t'es mort! Dieu n'a pas besoin de ces offrandes-là. Même si tu ne dis pas Amen, je prêche. Même si vous allez me détester, je prêche. Cette semaine, je parlerai de la part de Dieu. Il est temps que nous puissions prêcher la vraie parole qui est Jésus-Christ. Et non pas mentir les gens. Les gens viennent à l'église le dimanche et ils sortent comme ils sont entrés. Pourquoi? Parce qu'ils restent avec leur péché. Ils veulent donner les offrandes. Ils veulent être des partenaires. On n'a pas besoin de partenaires. On a besoin des hommes changés par la parole de Dieu. Pas des gens qui viennent chauffer.
Jésus.
Et le Seigneur m'a dit, cette semaine, c'est une semaine de transformation. Cette semaine, il y a des gens qui seront obligés d'abandonner certaines choses. Je vis des gens qui auront du mal à prendre certaines décisions, mais ils les prendront cette semaine. Cette semaine, je vous prie, ne manquez pas, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'aimerais que nous puissions nous tenir debout là où nous sommes.